fêter en fanfare et en chauvin la nouvelle année, on vous envoie une petite carte postale de notre beau pays, désormais agrandi à la Picardie.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon.
Une petite balade sonore dans Schnorr en mode no comment, direction Douai et son carillon pour commencer, puis Arras et son fameux bleu, pour le reste, on vous laisse deviner.
Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable, et mon père entrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu.
On a presque 200 marches avant d'arriver au carillon.
Ça se mérite. C'est assez physique, donc là c'est la partie step.
On arrive ici donc dans ce qu'on appelle la chambre des cloches, qui est la pièce dans le beffroi où se trouvent toutes les cloches du carillon. Donc comme vous le constatez, les cloches sont fixes, contrairement aux cloches des églises qui sont sonnées à la volée. Et c'est le carillonneur, par l'intermédiaire de ce clavier, qui va pouvoir mettre en mouvement les battants, qui sont ces pièces métalliques à l'intérieur des cloches, qui permettent donc de les faire sonner. Donc en fonction de l'intensité de la frappe, on va avoir un son qui va être plus ou moins fort. À quoi ressemble un clavier de carillon ? Alors même si les touches sont organisées comme sur un piano, avec deux étages de touches, des touches blanches et des touches noires, les touches ressemblent plutôt à des manches de brouette qui auraient été mises les unes à côté des autres sur deux niveaux différents. La différence réside également dans l'écartement, puisque ces touches sont écartées de quelques centimètres, car la technique de base du carillonneur est une technique dite à coup de poing. Alors c'est un petit peu rustre, mais le carillonneur joue en fait avec tout son poing. Et en fait, on vient frapper sur le clavier avec donc le plus petit doigt donc, qui se prend le coup en quelque sorte. Une autre particularité du clavier de carillon, c'est qu'on a un système de pédalier qui, pour le cas, est plus proche du pédalier de l'orgue, on va dire, et qui permet de jouer les plus grosses cloches, puisque vous imaginez bien que le battant est proportionnel à la cloche. Donc quand une cloche fait plusieurs tonnes, mais on a un battant qui fait plusieurs dizaines de kilos, donc il est plus difficile à mettre en mouvement avec le manuel, bien qu'on puisse le faire, mais avec les pieds, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on utilise la force des jambes.
Alors, on va commencer déjà la préparation de la couleur. Comme vous pouvez le voir, c'est de la poudre. Cette poudre, c'est du cobalt, qui n'est pas du tout bleu avant la préparation, avant la cuisson. Elle a une couleur qui est toujours un petit peu difficile à définir. Elle est un petit peu violine, un petit peu lilas. C'est une couleur un peu spéciale que je mélange en premier lieu avec du médium. Voilà, vous avez vu, cette préparation se fait sur une plaque de verre à l'aide d'un couteau. Voilà. Alors, une fois qu'on a obtenu cette pâte, il suffit simplement d'y ajouter quelques petites gouttes d'essence de térébenthine qui a pour fonction de fluidifier un petit peu cette pâte pour pas qu'elle soit trop épaisse, puisque toute la décoration est réalisée à la plume et au pinceau. Donc la couleur, forcément, ne doit pas être trop épaisse pour pouvoir couler, être utilisée avec la plume. Et pas non plus trop liquide, hein, sinon ça coulerait. Voilà, je pense qu'on a quelque chose d'idéal pour commencer à attaquer le travail. Donc à partir de là, on va prendre une petite porcelaine et on va attaquer... D'abord le travail à la plume. On va réaliser quelques petites fleurs, quelques petites guirlandes à la plume. Et maintenant, on va attaquer au pinceau pour terminer cette guirlande et lui réaliser les petites feuilles sur le travail qui a déjà été exécuté. Et ensuite, voilà, une fois que la pièce est terminée, ça repasse au four. Il y a une cuisson de 1300 degrés. Il faut à peu près 8 heures pour monter à température, autant de temps pour redescendre. Et lorsque la pièce va sortir du four, elle sera le décor d'un bleu éclatant.
Tiens, madame, pour vous, quel serait le premier danger de la mine ?
Vous, à côté de moi.
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Comme étant le premier danger de la mine ?
Je vais dire le grisou.
Bon, et vous, monsieur ?
Je dirais une étincelle, le feu.
Ouais, et vous ?
Ouais, je dirais le grisou aussi. Ouais.
Le premier danger, il est là, c'est la cage.
Je vois
L'ascenseur.
L'ascenseur, oui. Il y a eu des accidents d'ascenseur.
Oui, bien sûr. Dès l'instant où vous entrez dans la cage d'ascenseur, c'est sûr que vous entrez dedans.
Oui.
Mais combien de fois ils sont tombés au fond ? C'est arrivé fréquemment. Hein.
Les câbles cassés.
Oui. Effectivement. Même qu'il y a un système de sécurité, le fameux parachute que tout le monde connaît. Alors, malheureusement, dans une fosse, je ne sais plus de quel endroit, une cage descendait sans ouvrier. La cage descend normalement, d'un seul coup c'est bloqué brutalement grâce au parachute. Alors que s'est-il passé en fait ? Le câble s'est rompu, mais par son élasticité, le câble qu'a-t-il fait ? Tendu, il a donc remonté, il a fait le tour complet de la molette, et le câble est tombé sur la cage, et le poids du câble a tué 57 personnes. Mais comme quoi, on peut prévoir, parfois mais on ne peut pas tout prévoir. Donc pour ça je dis aux auditeurs, on rentre dans la cage d'ascenseur, on oublie ce qu'il y a derrière, mais c'est le danger, c'est le premier danger. Parce que finalement, ça peut arriver parfois que cette cage se casse. Puis ça va très vite, attention, hein, une cage. Vous avez vu la vraie cage au fond ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a comme différence par rapport à l'ascenseur ? Vous avez remarqué ?
Elle a des cloisons là au milieu.
Il n'y a pas de cloisons, il y a des berlines, mais surtout elles ont des barres latérales en haut. Vous avez vu les barres latérales ?
Oui.
À quoi elles servaient ces barres latérales à votre avis ? Croyez-moi, la première fois que je suis arrivé là-dedans, ces anciens qui ont quand même des scélérats et des flibustiers, tous l'ont fait un peu exprès. Tous se sont accrochés là-dessus, d'un air de dire attention petit. Tiens-toi bien parce que ça bouge beaucoup. Et essayez de vous imaginer ce qu'on peut ressentir à l'âge de 15 ans. Et en plus de ça, une cage, elle bouge énormément. Ah oui, attention, hein, c'est pas l'ascenseur. Hein. Et je n'ai jamais compris pourquoi, moi, une cage. Ça bouge toujours plus le lundi matin et le lendemain de Sainte-Barbe. Je sais pas comment ça se fait.
Incroyable, hein. Une frite, elle chante. Je parle avec les gens, oui, j'entends les frites à l'oreille. Et je dis, elle m'appelle, sortez-moi, sortez-moi. Quand j'apprends les jeunes friteurs, c'est comme ça. Ah bon, la frite, elle parle. Ben, je dis oui. Elle en a marre d'être dans la bulle bouillante, alors elle m'appelle. Et ah, vous le savez, les frites, elles chantent. Ah ouais, oui. Personne n'est surpris quand on travaille dans une friterie. C'est une culture, la frite.
Et c'est un métier aussi.
Ah, c'est un métier.
C'est un métier.
Ah oui, oui. À part entière.
Il y a deux grandes frites.
Allez. Il y a le savoir-faire dans la pré-cuisson, savoir les pré-cuire, puis après savoir les cuire. Il ne faut pas non plus que ce soit des bouts de bois. Si vous traînez trop et les gens ils disent des bières rousses, ouais, mais ils n'arrivent pas à les manger. Il faut que la frite elle soit bonne en chair. Vous voyez là, elle est belle, vous voyez là. Dorée. Et alors surtout bien la secouer pour qu'elle soit. Qui n'est pas plein de graisse dessus. Il hein, faut bien la remuer, vous voyez. Voilà, allez, c'était beau. Ça, c'est un américain brochette. Brochette de bœuf, vous voyez, oh, avec des frites, vous voyez. Vous avez l'eau, l'électricité, tout dans le même tuyau.
L'américain brochette,
c'est ça. Oh, vous voyez,
Hannibal,
regardez, repas complet.
Ch'ti. Alors la ch'ti, voilà. C'est un mélange de samouraï et d'Hannibal. Les landalus, la cocktail, le samouraï.
Bon, parfois, il y a des gens qui me disent on peut pas manger des frites tous les jours.
Burger,
on ne peut pas manger des haricots verts tous les jours non plus.
Harissa.
Vous allez chez Maxime à Paris, le plus beau restaurant, on mange des frites. On mange des frites partout.
Calili, provençal et moutarde.
Elles sont belles. Ça, c'est de la frite. On va vous en faire goûter. Hein.
Je m'appelle Alain Dupont et je fais des visites commentées de la ville en calèche. Depuis le parvis de la cathédrale, donc on fait un tour qui fait près de 2,5 km en traversant le vieux quartier, en remontant au centre-ville. Ici, c'est un peu le rendez-vous des touristes ici, en fait. Il y a du monde aujourd'hui, oui. Ben, ils viennent de partout dans le monde, hein. Ils viennent de l'Australie, des États-Unis. J'ai eu dans l'année dernière des gens de Saint-Pierre et Miquelon.
I am from Hungary.
From Czech Republic.
From England.
Copenhagen.
Yaroslav, it's near from Moscow.
Я походжу з Польщі.
I'm from Taiwan.
Hubei, au centre de la Chine.
Est-ce que vous voulez visiter cette cathédrale ?
Oui.
Oui. Oui.
L'ensemble est majestueux, superbe, voilà, c'est beau, c'est Amiens, voilà, c'est ce beau dieu d'Amiens là, qu'on étudie dans les livres et puis qu'il faut voir. Parce que les choses, si vous voulez, sont livresques, mais avant tout, il faut les sentir, les toucher, il faut vibrer.
Cette cathédrale, c'est la plus vaste église de France. Elle fait donc 7700 m² au sol. Et en volume, on peut y mettre dedans deux fois Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, c'est à peine 90 000 m³. Celle-ci, c'est plus de 220 000. Donc on a nettoyé cette façade de 92 à l'an 2000. On s'est rendu compte qu'elle était peinte. On a fait l'inventaire de toutes les polychromies qu'on a découvertes. Et c'est ce qu'on propose tous les soirs d'été.
C'est une vraie dentelle.
C'est magnifique. Vous avez vu le spectacle le soir,
non ?
Vous êtes là pour le voir, j'espère ?
Non.
Oh, quel malheur.
le Christ juge est vêtu de blanc, orfroi au rehaut d'or et d'argent. Au tympan, il trône en majesté et préside le jugement dernier.
On était très haut, je me souviens, dans les tribunes. Mes yeux se sont focalisés sur le COP. Ça ne s'est pas arrêté du tout pendant tout le match. Et ça a commencé à monter en moi d'une émotion. En fait, je me suis dit, mais moi, je veux être là-bas. Moi, je veux être là. Et les mecs, ben, ils n'arrêtent pas du tout de chanter pendant 90 minutes. Ils poussent leur équipe et je me rends compte que les mecs sur le terrain, eh ben, ils sont portés aussi. Ça veut dire que l'image du 12e homme, c'est pas pour rien. J'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres stades, évidemment, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas retrouvé, ce truc où on est emporté, où on sent qu'il y a une connivence, une cohésion, une confiance aussi entre les joueurs, le club, les supporters. Et pour moi, c'était une évidence. Alors certes, avant, j'étais venue, je passais devant, ouais, je trouvais ça un stade à l'anglaise, ça changeait un petit peu. Je suis allée au parc aussi quand j'étais plus jeune et que j'habitais à Paris. Hein. Mais, alors peut-être aussi parce que je suis très attachée à mes origines, je l'ai toujours été, et parce que ça voulait dire quelque chose. Après, les passions ne s'expliquent pas non plus avec des choses très très claires. Parce que sinon, ça ne s'appelle plus de l'amour, ça ne s'appelle plus de la passion.
Une ch'tite de carte postale sonore avec les meilleurs vœux de Bruno Reguet, Radio PFR.
Bonjour, supporters. Attention, ce match est loin d'être fini. Ensemble, on va le chercher. C'est toi avec nos joueurs. Ensemble, les 4000. Est-ce que Poulard va pousser jusqu'à la fin de match ?
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.